l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Alors, Frédéric Duchesne, bonjour.
Bonjour.
On va parler de la 5G aujourd'hui, grand débat qui n'a pas vraiment lieu, que en tout cas tu voudrais soulever, hein, parce que c'est une question, l'installation de la 5G dans notre pays qui se fait de façon presque naturelle. Mais toi, en tant que simple citoyen, là, tu as eu une sorte de déclic récemment. Tu peux nous expliquer ?
La période de confinement m'a permis de prendre du recul et donc prendre le temps de réfléchir un petit peu à ce qui se passait, et notamment le serrage de vis sécuritaire. Ça m'a choqué dès le début. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Les gens se font arrêter quand ils veulent partir sur un sentier de montagne, se promener pour se faire du bien. Bon, c'est ça. Ça me paraissait dingue. Bon. Et à partir de là, j'ai commencé à regarder sur Internet et à regarder, comment dire, les avis contradictoires, les avis dissidents. Donc j'ai interrogé des chaînes sur Internet, comme Le Vent se lève, comme Osons parler, etc. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des aspects sur le plan politique que j'avais pas du tout aperçu pour le moment. Alors j'ai réfléchi par rapport à ça. Déjà, il y a des gens qui se posaient des questions parce que Wuhan, en Chine, est la ville pilote pour le déploiement de la 5G en Chine, en me demandant effectivement est-ce que les gens qui sont exposés aux ondes de la 5G ne peuvent pas d'une certaine manière être fragilisés sur le plan de leur système immunitaire. Ça m'a interpellé, il n'y a pas qu'au moi que ça a interpellé. Et c'est venu de là. Et à partir de là, j'ai commencé à regarder effectivement ce qu'était la 5G. Et là, j'ai lu, j'ai entendu que les dangers étaient très réels.
Et effectivement, le problème sur la technologie de la 5G, il y a un manque d'études sur les aspects environnementaux et sanitaires notamment. En fait, on est dans l'idée qu'on est passé de la 2G à la 3G, à la 4G, et que forcément, c'est le progrès. Et finalement, il n'y a pas de débat.
Alors d'abord, ce qui est absolument évident, c'est que le principe de précaution n'est pas respecté. Bon, ça, il faut bien que les gens le comprennent. On va vraiment être exposé aux ondes de la 5G comme des cobayes, sans qu'aucune étude sérieuse n'ait été faite, aucune étude indépendante, mais même les acteurs de la 5G industrielle ne réalisent même aucune étude par rapport à ça. Bon.
Donc ce confinement, à toi, il t'a permis d'aller finalement, de prendre le temps de la réflexion, parce que c'est vrai que quand même ce qui nous est arrivé, il y a quand même un énorme danger sur la démocratie et la liberté dans notre pays en temps de confinement, enfin ce qui nous a été imposé comme ça d'un coup. Moi, ce que j'aimerais bien comprendre, tu dis que la 5G aussi, c'est le contrôle des populations, c'est la surveillance, c'est l'état sécuritaire. Mais en quoi la 5G, en fait, nous surveille ? Et en quoi c'est un problème démocratique ? Parce que c'est aussi ça qui est dénoncé, mis à part les aspects sanitaires et environnementaux.
Moi, je suis persuadé que la manière dont la crise du coronavirus est menée nous mène en entonnoir vers le vaccin. Bon, un vaccin d'ailleurs qui sera inefficace parce qu'un coronavirus mute, donc aussi inefficace dans la durée que le vaccin contre la grippe. Quand on se renseigne sur les vaccins, déjà, on voit les dangers qui sont liés sur le plan sanitaire aux vaccins, les additifs, l'aluminium, le mercure, j'en passe et les meilleurs. Donc là aussi, je vous invite à vous renseigner vraiment sur la dangerosité des vaccins. Mais ce vaccin censé nous immuniser contre le coronavirus, a priori, voilà, ne fonctionnera pas. Un certain nombre de scientifiques le disent haut et fort. Et pourtant, quand on écoute l'information, et je vais revenir à ce qu'est, entre guillemets, l'information, il paraît complètement naturel aujourd'hui que l'Europe, que la France ait déjà investi des dizaines de milliards dans le développement de vaccins, d'ailleurs sans aucune consultation des citoyens par rapport à ça. C'est juste comme une espèce d'évidence. Bon. Et ce qu'il est dit aujourd'hui, c'est que ce vaccin du coronavirus comporte une partie qui a été classifiée secret défense. C'est-à-dire qu'il y a une partie du contenu de ce vaccin sur lequel il y a une protection, sur lequel on n'aura pas d'informations. On parle aujourd'hui donc d'un vaccin biométrique, c'est-à-dire un vaccin qui va contenir un marquage biométrique qui permettrait ensuite une reconnaissance identitaire de la personne. Et ce qui est aujourd'hui clairement soupçonné, c'est que la 5G soit le support d'informations qui permettent justement ce traçage et cette détection. Donc là, on va directement vers un monde vraiment absolument effrayant, une démocratie entre guillemets à la chinoise, où tout le monde est tracé, traqué dans ses moindres mouvements, faits et gestes, et il y a un danger clairement sur par rapport aux libertés. Et par rapport à ce qui était notre démocratie, moi, qui m'apparaît comme devant être absolument questionné,
Alors moi, je ne comprends pas bien comment on pourrait faire un vaccin biométrique. T'as vu ça où ? Et comment on peut essayer de comprendre comment ça fonctionnerait ? Qu'un vaccin soit, gardé comme une propriété privée par des grands labos pharmaceutiques, ça, c'est un réel, réel débat. On peut se dire, sur une question comme le coronavirus, est-ce que le vaccin ne devrait pas rentrer dans la communauté internationale et être diffusé gratuitement à tout le monde ?
Ce vaccin ne sera pas diffusé gratuitement à tout le monde. C'est complètement impossible. Ce vaccin va être développé par un certain nombre de labos. Là, par rapport à ça, j'invite aussi les gens à se renseigner sur ce qui est en train de se passer par rapport à la prise de contrôle de l'OMS, de l'Organisation Mondiale de la Santé, par la Fondation Bill Gates. Bon, clairement, on le sait aujourd'hui, la Fondation Gates a pris le contrôle financier de l'OMS, a pris le contrôle financier d'une entité qui s'appelle le Gavi, qui est le groupement de promotion des vaccins sur le plan international. Et la Fondation Gates a investi dans toutes les sociétés qui développent du vaccin. Donc, il ne s'agit pas du tout d'une œuvre caritative de la part de l'homme le plus riche du monde, absolument pas. Il s'agit d'investissement, business, avec un retour sur investissement au travers de la vente de milliards de vaccins. Ce qui est intéressant de voir aussi avec ce qui se passe avec Bill Gates, le fondateur de Microsoft, c'est que, en fait, on a le même modèle dans la population, on va dire biologique, le même modèle qui avait été créé dans le domaine informatique. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'en micro-informatique, le monde Windows a toujours été infesté par des virus, ce qui a permis la vente massive d'antivirus. Alors que le monde, justement, de Apple était tout à fait protégé de ça, exempt de ce problème-là. Et bien, en fait, ce qui est en train de se créer, c'est la même chose. En fait, il y a des virus qui sont envoyés sur la population et on va nous proposer un produit qui est un antivirus, qui sera payant. C'est le même modèle. Tu disais, en parlant du vaccin biométrique, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas un délire ? Est-ce que des gens comme moi ne sont pas simplement des paranoïaques ? Bon, et ben en fait, j'invite aussi les auditeurs à interroger sur Internet un projet qui s'appelle le projet ID21, Project en anglais, ID21. C'est affiché clairement sur Internet, donc les informations, elles sont présentées, et donc la Fondation Gates a à nouveau investi dans un projet, ID21, qui est un projet présenté comme un projet généreux et humanitaire, qui est de vacciner les populations, notamment les populations de migrants, arguant du fait que les migrants ont le problème aussi quand ils sont effectivement sur une migration forcée liée à des catastrophes, des guerres, etc., perdent en général leur papier d'identité, et que ces pauvres migrants, ce serait un service à leur rendre de pouvoir les vacciner et au même moment de pouvoir effectivement leur injecter carrément en fait une carte d'identité. Donc c'est pas un délire, hein, c'est pas un délire ni technologique, ça n'est pas du délire de penser que ce projet n'existe pas. Ce projet, il existe. Ce projet, il est présenté comme une nouvelle fois vertueux et comme humanitaire et un service rendu aux populations. Mais clairement, aujourd'hui, je pense que le projet, c'est de le généraliser à toutes les populations. Et là, il y a un danger sur le plan des libertés qui est juste absolument effrayant.
D'accord, oui. Effectivement, s'il y a tout ça derrière la 5G, c'est vraiment très, très inquiétant. Et alors, de façon beaucoup plus directe et totalement certaine, en tout cas, la 5G est liée au développement, au déploiement des objets connectés. Et là, donc, si on revient sur les effets environnementaux et sanitaires de la 5G, on voit très bien ce que ça veut dire, hein. Tous ces objets connectés dans notre quotidien qui émettent des ondes pour fonctionner, enfin, qui reçoivent ou émettent des ondes, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, et tout le gaspillage énergétique que ça génère, parce que c'est des objets qui pourraient très bien fonctionner juste de façon mécanique ou comme anciennement. Hein. Et là, on sait qu'il y a une consommation d'électricité au niveau national, international, liée à cette technologie de la 5G qui va complètement exploser. Je crois que j'avais vu une efficacité énergétique multipliée par 2000 qui est recherchée. Entre l'actuel système et la 5G qui est prévue.
Oui, effectivement. Donc, il y a pas mal de chiffres qui circulent. Je ne vais pas en donner, mais en tout cas, il est clair qu'avec l'arrivée de la 5G, il va y avoir à nouveau des dépenses énergétiques qui vont, je crois, j'ai entendu doubler, tripler sur le plan justement de tout ce qui est lié au système d'information par rapport au réseau de téléphonie, etc. Bon, vis-à-vis des objets connectés, aussi, nous, en tant que citoyens, on peut se demander aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas suffisamment de digital dans nos vies? Quand on voit que nos enfants, notamment, sont complètement scotchés à leur smartphone, une partie très très importante du temps, que ça provoque aujourd'hui sur le plan psychologique des problématiques d'enfants qui sont hyperactifs. Voilà, on peut se demander jusqu'où est-ce qu'il faut aller. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Finalement, nos élus décident d'un choix technologique. Il n'y a pas vraiment de remise en cause parce qu'il y a un présupposé qu'on en a besoin. Mais finalement, la 5G, ça va aussi avoir des impacts sociaux et de santé mentale, enfin, sur nous. C'est-à-dire que on va vers un monde beaucoup plus connecté où on sera toujours sur nos smartphones, on sera toujours en lien avec la technologie. Et finalement, on sera peut-être aussi moins en lien avec les autres. Donc il y a des questions philosophiques sur nos rapports à la consommation aussi. Au lieu d'aller faire nos achats dans des petits magasins, on va tout acheter sur Internet. Des aspects liés ou regarder des films sur Netflix plutôt que d'aller au cinéma. Rapport au temps aussi, il faut tout que ce soit hyper rapide, vite, tout de suite, machin. Hein. Et rapport aux autres, de finalement pas forcément rechercher le rapport direct, mais de se contenter d'une très belle vidéoconférence avec sa famille ou ses amis. Donc ces questions-là dans le 5G, elles sont absolument pas posées par nos politiques, parce que finalement il y a un présupposé qu'on en a besoin et qu'on sera très content avec ça. C'est aussi un gros problème de la 5G.
toujours plus connecté, toujours plus rapide, un monde où tout va toujours plus vite, où effectivement, comme tu le dis, on va vers toujours plus de virtuel aussi. Hein. Donc, comme tu le disais, regarder des films sur Netflix plutôt que d'aller dans les salles de cinéma, en contact avec les autres, tout commander sur Internet, la disparition du commerce de proximité. Il y a ce présupposé que le citoyen voudrait ça, mais a priori, c'est complètement faux. Je pense qu'on peut tous dire aujourd'hui qu'avec la rapidité à laquelle vont leurs smartphones aujourd'hui, déjà, pour télécharger des applis, des films, etc. Mais franchement, attends, c'est largement suffisant. Bon, j'écoutais une vidéo qui a été faite par Le Monde qui relatait le fait que le maire de Bordeaux, aujourd'hui, effectivement, bah, qui a été écologiste, récemment élu, demande un moratoire sur le déploiement de la 5G à Bordeaux. Bordeaux étant une des villes pilotes, ça avait été décidé comme ça. Donc il dit stop, on consulte le citoyen pour voir effectivement quels sont les enjeux, etc. Et il insiste sur les enjeux justement sur le plan de la liberticide hein, de la 5G. Et ben, dans ce reportage du Monde, Le Monde est détenu comme il est bon de le savoir aujourd'hui par des groupes de milliardaires, et ils insistent sur le côté contraire, les avantages de la 5G, donc ils mettent tout de suite ça en balance, et ça m'a fait quand même bien rigoler de voir qu'il y avait en fait le dirigeant d'une PME qui travaille aujourd'hui sur les systèmes 5G à Bordeaux, qui menaçait de dire bah, « nous, si la 5G ne se déploie pas, on partira à l'étranger ». Moi, je lui dis franchement bah, « bon voyage ». Et qui disait que lui travaillait sur le fait notamment que grâce à la 5G, on allait pouvoir prédire qu'un escalateur allait tomber en panne. Bon, mais franchement, mais qu'est-ce que j'en ai à faire qu'on puisse aujourd'hui prédire qu'un escalateur va tomber en panne et qu'à ce titre, on arrose la population mondiale d'ondes, a priori, dont on ne connaît même pas l'effet nocif. Je pense que les gens savent aussi que la 5G, c'est le déploiement dans l'espace de 20 000 satellites qui permettent qu'aujourd'hui, le moindre être vivant sur la planète ne puisse échapper au rayonnement d'ondes électromagnétiques qui sont a priori sur des longueurs d'onde qui sont purement dangereuses. Voilà, je trouve ça choquant, ce passage en force est choquant, et ce passage en force, il a été illustré aussi par le fait que, pendant qu'on était tous confinés, complètement sous l'effet d'une peur qui était diffusée par le gouvernement, et bien au même moment, notre gouvernement a fait un passage en force en faisant passer une ordonnance, c'est-à-dire que même les députés ne pouvaient pas s'y opposer, cette ordonnance disant qu'aujourd'hui, l'installation des pylônes qui portent la 5G en France, les maires des communes ne peuvent même pas s'opposer, même pas mettre en question ceux des déploiements. Alors franchement, si ça, c'est pas un passage en force, c'est pour ça que des gens comme ça, des gens moyens, parce que je me considère comme effectivement quelqu'un de complètement dans la norme, je pense qu'aujourd'hui, les gens qui m'écoutent et qui sont comme moi, qui ne s'étaient pas mobilisés pour d'autres causes, peuvent se dire « Allez, maintenant, basta, ça va trop loin ». Il faut que sur le plan local, les citoyens, les élus de nos communes puissent interroger ça et puisse notamment faire respecter le principe de précaution, c'est-à-dire exiger que des mesures soient faites, des mesures d'exposition aux ondes électromagnétiques pour qu'on se rende compte véritablement si on va être exposé à un danger sanitaire ou pas. Simplement au minimum sur le plan du danger sanitaire de la 5G. Throw away your anger.
at peace with you. Take me, baby. 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 Take me, baby.
Alors toi, Frédéric, comme tu le disais au tout début, tu es un simple citoyen qui n'a jamais milité, en fait. Et là, c'est, pour toi, ça a été vraiment le déclencheur.
Oui, j'ai jamais milité, jamais été très engagé politiquement. Je vote écologiste depuis des années et des années. La notion de droite-gauche ne me disait pas grand-chose. J'arrivais pas à me situer là-dedans. Et j'ai mieux compris d'ailleurs j'ai pris le temps de réfléchir à ça pendant le confinement, en me disant que voilà, ce débat de droite-gauche, en fait, il est totalement faussé, parce que aujourd'hui, on est dans une démocratie qui n'est plus une démocratie, dans la mesure où notamment au niveau de l'élection présidentielle, et on l'a vu avec l'élection de Macron, Macron a clairement été sorti de nulle part, brusquement. Il a eu des moyens extrêmement importants pour réussir une campagne, et ces moyens lui venaient directement du système financier, du système bancaire.
Il y a quand même la possibilité pour, tu viens d'en parler, pour un maire comme le maire de Bordeaux, de faire un moratoire sur le déploiement de la 5G sur sa commune, même si c'est relativement limité par des réglementations assez récentes qui sont sorties pendant le confinement. Toi, tu as monté un collectif ici, à Hendaye, et tu invites certainement les habitants des différentes communes de France et d'ailleurs qui nous écouteraient à faire de même, c'est-à-dire de créer des groupes pour réfléchir et pour essayer d'agir contre le déploiement de la 5G.
Alors, quand tu dis que j'ai monté un collectif, on n'est pas encore là. Donc tout simplement, c'est ce que j'ai fait, et je l'ai fait très très simplement, humblement. J'ai commencé par simplement mettre une affiche dans un magasin bio à Hendaye, c'est tout. À partir de là, effectivement, il y a 5-6 personnes qui m'ont contacté. On a formé un premier noyau, en quelque sorte. On fait le 21, donc dans quelques jours, une seconde réunion. On va probablement être nettement plus nombreux. Et donc, on démarre ce collectif en associant, comment dire, des compétences, des gens très différents, des gens d'âge très différents, teintures politiques très différentes éventuellement, chacun a son parcours de vie, mais on est tous en train de prendre conscience qu'effectivement, sur le plan local, si on ne se lève pas, si on ne bouge pas, si on ne se structure pas, et bien effectivement, ce déploiement de la 5G, avec tous les dangers dont on vient de parler, va nous être imposé. Bon, donc on en est au début, et je démarre d'une manière simple. D'ailleurs, je l'ai dit aux gens, je ne veux pas, en quoi que ce soit, prendre la direction d'une structure, je ne veux pas être un leader. Ce que je souhaite plutôt, sur un plan un petit peu... on va dire auto-gestionnaire, que ce groupe associe des énergies, des compétences et des gens qui ont envie d'agir pour que, au minimum, à Hendaye, le principe de précaution soit appliqué.
Et alors, pour créer des collectifs locaux pour éviter la 5G, est-ce qu'il y a un site de référence, une fédération, quelqu'un qu'on pourrait contacter qui pourrait aider à avoir plein d'éléments pour mieux agir ?
Alors, autour de nous, ici, en Aquitaine, il y a le CADE, C-A-D-E, donc on peut trouver très facilement le site du CADE, qui est effectivement une coordination qui regroupe justement différents collectifs, associations qui luttent pour l'environnement, qui ont lutté contre Linky, les compteurs Linky intelligents, et qui luttent actuellement contre le déploiement de la 5G. Bon. Tout à côté de nous, à Cibourg, une association s'oppose au déploiement de la 5G, donc j'ai pris contact avec eux. L'idée, c'est monter des collectifs, je pense d'une manière assez simple, et ensuite regarder rapidement autour de nous, chacun dans sa commune, ce qui peut déjà exister, préexister dans les communes avoisinantes, voilà, pour grouper, se fédérer, grouper les énergies et monter une opposition qui va être, réaliser un espèce de maillage en fait de l'opposition à la 5G. Si possible, partout en France.
Alors, un petit mot de la fin ?
Juste insister sur le fait de dire, moi je suis quelqu'un qui a un parcours, j'ai deux grandes filles, j'ai fondé ma famille, j'ai travaillé dans différents métiers, l'informatique, l'immobilier, et aujourd'hui je suis praticien en libération émotionnelle, donc j'ai voulu d'abord faire un virage professionnel dans ma vie qui était plus tourné vers les autres, m'ouvrir un peu plus vers les autres. Ce que j'essaie peut-être de faire avec autour de cette lutte contre la 5G, c'est de me dire que c'est intéressant sur le fin de mon parcours professionnel aussi de mettre de l'énergie dans un combat qui me semble aller dans le bon sens. Qui me semble dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens du respect du vivant, de la lutte écologique, de la lutte contre les dangers qui menacent nos libertés.
C'était l'ours et la carotte, écoutable sur internet.